Chapitre 20. La fin de Satan. Sommaire. Le diptyque Dieu, la fin de Satan. Le thème général de la fin de Satan est l'étable. La singulière beauté du poème hugolien. Le glaive et ses sources spirites, l'épisode du lépreux. Le gibet et ses sources spirites, la sibylle. À la manière du lion d'étable. Le repentir de Satan. La même ascension humaine qui nous conduit vers la lumière nous ouvre les paradis. Ce second aspect du progrès spirit a trouvé chez Victor Hugo son expression littéraire la plus achevée dans la fin de Satan. Apprendre les choses en gros, c'est le dogme spirit qui se déroule au regard du visionnaire de Dieu, tandis que c'est plutôt la morale spirit qui fixe l'attention du chantre de Satan. Les poèmes Dieu et la fin de Satan se complètent. Dans l'un, il faut voir une métaphysique spirit de la connaissance. Dans l'autre, une métaphysique spirit du bonheur. La fin de Satan, c'est l'épopée du mal dans le monde. La lutte gigantesque entre le bien qui est Dieu et le mal personnifié en Satan. L'épilogue de cette lutte, la défaite ou plutôt la capitulation de Satan. Si le mal s'identifie avec Satan, c'est en effet Satan lui-même, c'est-à-dire sa damnation, sa haine, qui doivent cesser un jour. La lutte pour toutes les libérations doit fatalement aboutir à sa libération à lui. Les esprits qui parlaient à Jersey dans l'étable confirmaient notre poète philosophe dans son adhésion à une amnistie universelle. À cette question, ce châtiment sera-t-il éternel? Moïse répondait le 8 décembre 1853, vers minuit, « Tous ces criminels se transfigureront lentement et deviendront des justes. Le rayonnement lointain de Dieu fondra ces cœurs de glace, et leurs crimes s'écouleront en avalanche dans l'abîme du pardon divin. » Les tables reprennent sans se lasser leur argumentation prosatanienne. Le 11 février 1855, Jésus-Christ reproche au christianisme d'enseigner l'amour sous le nom de charité et la haine sous le nom d'enfer. Le 18 février de la même année, il s'élève encore contre les flammes éternelles. Le 8 mars, un esprit anonyme proclame à son tour le nouvel évangile. La vraie religion, c'est un immense apprivoisement de bêtes fauves et non un immense bûcher. C'est une énorme tendresse pour les féroces, pour les infâmes, pour les maudits. Sur ce point encore, il va sans dire que les esprits de Jersey ne nous renvoient qu'un écho. On se doute assez qu'ils ne furent ni les premiers, ni les seuls, à introduire l'instance qui restituait à Satan les droits du Lucifer d'avant la chute. Vigny, dans Eloa, 1820, Lamartine, dans La chute d'un ange, 1837, Théophile Gautier, dans Une larme du diable, 1839, Soumet, dans La divine épopée, 1840, Laprade, dans Psyché, 1841, était entré en campagne pour faire réviser le procès du banni bien avant que le guéridon eût bougé et que Hugo eût entrepris la fin de Satan, 1854-1860. Mais tout prévenu qu'il était par son romantisme même en faveur du révolté, Hugo n'eût sans doute jamais songé à lui apporter son témoignage si les tables n'avaient fait entendre leur voix. Dès 1854, il s'attelle à son poème et l'on voit se multiplier à travers son œuvre les manifestations prosataniennes. « Les enfers se refont Éden, c'est là leur tâche. » Contemplation, ce que dit la bouche d'ombre, 1854. « Dieu voudra. Tout à coup, on verra les discordes, la hache et son billot, les gibets et leurs cordes, l'impur serpent des cieux banni, le sang, le cri, la haine et l'ordure et la vase, se changer en amour et devenir extase sous un baiser de l'infini. » Légende des siècles, tout le passé et tout l'avenir, 1854. Écoute-moi. La loi change. Je vois poindre aux cieux l'archange. L'esprit du ciel m'a crié sur la montagne. Tout enfer s'éteint. Nul bagne n'est éternel. Satan meurt. Légende des siècles, l'océan, 1854. Dieu m'accepte. Il finit à moi. Je suis sa borne. Cieux, azur, profondeur, splendeur, l'amour me hait. Non, je ne te hais point. Satan est mort, renaît, ô Lucifer céleste. La fin de Satan, 1854-1860. Pour illustrer la double idée de chute et d'ascension expiatrice qui gît au fond de son credo spirit, Hugo ne pouvait trouver de symbole plus grandiose ni plus conforme à la nature antithétique de son génie que le drame de Satan, précipité du ciel, puis remontant vers les hauteurs bienheureuses. Le poème de « La fin de Satan » est resté à l'état d'ébauche en plusieurs de ses parties. L'œuvre était si vaste, ayant l'univers pour théâtre et se déroulant à travers des millénaires, qu'il n'est pas étonnant que, comme nos cathédrales gothiques, elle demeure inachevée. Telle qu'elle est, et malgré ses défauts, qui d'ailleurs lui sont communs avec les autres ouvrages de l'auteur, elle renferme des pages d'une telle puissance et d'une telle variété qu'il faut sans doute la considérer comme le chef-d'œuvre de Victor Hugo. Le poème se divise en trois parties. Le glaive, écrit en 1854, le gibet, écrit en 1859-1860, la prison, inachevée. Ces trois parties correspondent aux trois âges de l'histoire humaine. Les temps primitifs, l'époque évangélique, les temps modernes. Le glaive. L'influence des tables est peu marquée dans le glaive. Je ne la vois très nette que dans quelques passages. Une voix qui parlait dans un rocher lui dit, page 57, « Les invisibles yeux qui dans l'ombre épars, et dans le vague azur s'ouvrant de toutes parts, stupéfaits regardaient. » Page 65. Et surtout dans l'épisode du lépreux, page 48-53. Pendant que le fléau Némrod sévit parmi les hommes qui l'éclaboussent de sa gloire sanglante, un obscur lépreux, tout resplendissant de beauté morale, devient le champion de l'amour. « Ô mes frères lointains qui me jetaient des pierres, soyez bénis, bénis sur terre et dans les cieux, pères dans vos enfants et fils dans vos aïeux. » Fin de Satan, page 50. Sa qualité de lépreux le désignait à la sympathie du poète. Hugo, ayant pris à tâche de réhabiliter la chouette et, soyons cyniques, le porc et le crapaud, il ne pouvait moins faire pour le lépreux. Il était fatal que celui de « La fin de Satan » possédât toutes les vertus puisqu'il avait toutes les disgrâces. Il appartient à cette classe d'êtres proscrits et maudits sur lesquels notre philosophe a reçu l'ordre de s'apitoyer et qu'il célèbre en effet dans « La bouche d'ombre » et « La pitié suprême ». Hugo imagine en outre que ce lépreux, non content de se résigner à son mal, se réjouit de l'offrir en sacrifice. Il montre, pour emprunter à notre poète ses propres expressions, cette sublime démence de la sagesse qui, de résignation se faisait sacrifice, sera la folie de la croix. Stultitiam crucis. Le fumier de Job transfiguré deviendra le calvaire de Jésus. La plaie du lépreux contient ainsi une promesse de paradis, car elle est une semence de gloire. Dans le ciel radieux, je jette ma torture, ma nuit, ma soif, ma fièvre et mes os chassieux, et le pus de ma plaie et les pleurs de mes yeux. Je les sème au sillon des splendeurs infinies. Pustule, ouvrez-vous et semez des étoiles. Fin de Satan, page 52. Mais ce trait de sa physionomie apparente aussi le lépreux du glaive au Job évoqué par les tables. Elle proclame que la boue ou le pourceau patauge est une gloire, est un honneur, que la fange est sublime et que l'excrément vil d'un ver est une cime sous l'immense pas du Seigneur. Que Job sur son fumier hideux où tout le blesse racle l'infini sur sa main, qu'une plaie est un astre en haillons sur les hommes, qu'il n'est pas, au fond, de différence entre le mendiant abîme de souffrance et cette nuit au flanc maudit, accroupi et gisant sur sa guenille brune, qui passe le tesson de verre de la lune sur sa lèpre de paradis. Séance du 10 mai 1855. Le gibet. La vie et les discours de Jésus, tels que Victor Hugo les expose dans le gibet, forment un admirable évangile. L'enseignement de Jésus-Christ coïncidait sur trop de points avec la doctrine hugolienne de pitié pour que le poète n'eût pas largement puisé aux sources sacrées traditionnelles. Sans beaucoup de peine ni d'invraisemblance, il s'efforce donc d'attirer à lui la divine figure du Sauveur. Il pêche surtout par omission ou prétérition. Les quelques passages où il s'écarte expressément de l'orthodoxie chrétienne sont justement ceux où il complète et corrige d'après les tables le texte des livres saints. C'est ainsi qu'il prête à Jésus la doctrine de la bouche d'ombre. Dieu présent à la nuit n'est pas absent des bêtes. Il vit dans les lions comme dans Daniel. Fin de Satan, la Judée, page 97. Ailleurs, il incorpore au récit évangélique une anecdote de son invention afin de faire sanctionner par l'autorité de Jésus le demi-agnosticisme de Galilée et de l'ombre du sépulcre. Table, page 335-350. Il faut lire cette anecdote, une rencontre de Jésus avec une sibylle, dans le chapitre qui porte ce titre, la sibylle. Ce chapitre renferme un long discours de 227 vers, divisé en 5 paragraphes, uniformément introduits par la formule « le livre d'en haut dit ». Ce livre d'en haut, n'en doutez pas, se confond avec le livre des tables. Ce long discours, bien entendu sibyllin, développe, et souvent en des termes étrangement concordants, les révélations faites par Galilée sur le Dieu ineffable dans les séances des 10 et 17 décembre 1854. Les derniers chapitres du poème contiennent un épisode qui vaut que l'on s'y arrête, celui du sommeil de Satan. Cet épisode répond à un long développement précédent sur les yeux toujours ouverts du éprouvé, horrible veille éternelle qui symbolise à la fois le châtiment qui pèse sur lui et la haine sans répit qui le ronge. Mais, à un moment de l'action, Satan, dont la haine n'est au fond que la nostalgie du ciel, éprouve comme une lassitude du mal. Récipiscence qui a déjà obtenu une première récompense. Il s'est endormi. Distrait de sa haine, il goûte enfin cette douceur de l'oubli. Le monde, libéré pendant ce temps de son infernale providence, connaît l'avant-goût des futurs âges d'or. Une blonde lumière bourdonne dans la campagne heureuse. La joie fleurit partout, comme un bienfait mystérieux. La nature divisée contre elle-même se réconcilie dans une trêve paradoxale. Un souffle fraternel est passé sur les choses, et l'on voit se renouveler les prodiges déjà chantés par le lion jersien. C'est l'heure où les cailloux, les roses et les bêtes, oubliant leurs douleurs, épellant clairement Jéhovah sous ses voiles, où l'ange du pardon fait lire les étoiles aux plus petites fleurs. Les tables, page 270, le lion, 9 mai 1854. Les branches s'écartaient pour ne pas gêner l'herbe. La montagne avait pris, complaisante et superbe, la fleur sur ses genoux. La rosée étonnée a suspendu ses gouttes et la mouche son vol. Table, page 296, 4 juillet 1854. Le cri des vautours cesse avec le chant des merles. La fontaine interrompt le babil de ses perles. C'est l'heure des remords. Pour ne pas empêcher les clochettes d'entendre, le Vésuve et l'Etna retinrent sous la cendre leur respiration. Tout s'arrêta devant l'ange de la clémence. Ce fut, sous ce regard de la grande prunelle, une adoration pensive et solennelle. L'arbre dit « Aimons-nous ». Tout pria, le caillou se vit une auréole. Ce qui rampe se crut des ailes, ce qui vole se sentit des genoux. Table, page 299-300, 6 août 1854. Le tableau de ces prodiges, avant d'être reproduit dans « La fin de Satan », aura d'ailleurs été copié et utilisé dans l'intervalle et d'abord bien entendu dans « Ce que dit la bouche d'ombre ». Parfois, on voit passer dans ces profondeurs noires comme un rayon lointain de l'éternel amour. La douceur saisit le plus farouche. Le chat lèche l'oiseau, l'oiseau baise la mouche. Le vautour dit dans l'ombre au passereau « Pardon ». Une caresse sort du houx et du chardon. Tous les rugissements se fondent en prière. On entend s'accuser de leur forfait les pierres. Tous ces sombres cachots qu'on appelle les fleurs tressaillent. Le rocher se met à fondre en pleurs, sous l'œil attendri qui regarde d'en haut. La bouche d'ombre, octobre 1854. La grande paix d'en haut vient comme une marée. Le moineau d'un coup d'aile ainsi qu'un fol esprit vient taquiner le flot monstrueux qui sourit. L'air joue avec la mouche et l'écume avec l'aigle. Le jour plonge au plus noir du gouffre et va chercher l'ombre et la baise au front sous l'eau sombre et hagarde. Tout est doux, calme, heureux, apaisé. Dieu regarde. Les contemplations, éclaircies, juillet 1855. Entre parenthèses, Satan dormait. La terre eut un répit. La lave folle au flanc de l'éclat s'assoupit. Le fouet oublia l'âme, et l'ours, las de ses courses, vint boire avec la biche à la clarté des sources. La rose parut belle aux dragons éblouis. La plante qu'étouffait le roc se dégagea. Les mouches qui pendaient aux toiles d'araignée s'envolèrent de vie et d'horreur baignées. Le poids se souleva du dos du portefaix, le vent s'arrêta court sur les flots stupéfaits. Fin de Satan, page 275. Décidément, Satan y met du sien. Son endurcissement finit par abdiquer. Il pleure. Il semble même prendre conseil des tables pour composer son repentir. L'immensité a des entrailles de mer. Les soleils sont pleins de pitié pour les souffrances. Et le ciel a des larmes plein ses étoiles. Les tables, page 370. Et pleura. L'on eût dit que ses larmes étaient de la lumière en pleurs coulant de deux étoiles. Fin de Satan, page 282. L'archange renaît en lui. Le mal a cessé d'exister. Le tout dernier chapitre est intitulé « Satan pardonné ». Satan pardonné, tel est le titre auquel il semble bien que Hugo ait d'abord songé pour son poème tout entier. Le procès-verbal de la séance de table tournante du 8 mars 1855 se termine sur un dialogue significatif entre le poète et l'esprit qui parle. L'esprit. L'évangile du passé a dit « les damnés ». L'évangile futur dira « les pardonnés ». Victor Hugo. Je fais un poème intitulé « Satan pardonné ». Les tables, page 363.